lavez, ben, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas. Et puis aussi par sécurité pour vous comme pour moi, pour et tout. Voilà. Comme je le disais, moi j'ai fait tout l'été des visites à Gérard et à Masque, donc autant continuer. Hein. Je crois qu'il vaut mieux être à jouer le jeu jusqu'au bout plutôt que s'affranchir des règles, qui sont après tout les règles communes et démocratiques. Ça marche, votre mécanique? Très bien. Alors, on va peut-être fermer la porte et la lumière. Ça va comme ça? C'est bien pour vous? Ou est-ce que vous voulez que je laisse un peu allumé?
On va sortir une petite lampe.
Non, non, très bien. Ça va pour vous? Bien. Bien, alors, finalement, c'est pas mal ça, parce que ça donne un peu de lumière.
Vous avez bien fait de pas descendre.
Ouais. D'ailleurs, on pourra peut-être faire ça pour quelques autres volets. Bien, alors, vous rappelez qu'on reprend aujourd'hui un atelier dont on n'avait pu faire que 2 séances la saison dernière. Il en restait 3, l'acte 3, 4, 5. Et donc, nous reprenons cet atelier avec l'acte 3 aujourd'hui. Alors, vous connaissez bien entendu nos petites règles. Je ne vais pas vous les rappeler, je les rappellerai demain pour l'atelier Égypte où il y aura peut-être des nouveaux, hein, mais vous les connaissez, je vais donc très vite là-dessus. Par contre, je vais m'appesantir une seconde sur les deux ateliers précédents, parce que, et d'ailleurs vous me l'avez avoué, même si vous avez passé 6 mois à ne faire que réviser les deux premières séances de l'atelier, je pense quand même que pour ceux qui, par hasard, je ne peux pas y croire, parmi vous n'auraient pas révisé, il est peut-être bon de se remettre un peu dans le bain de ce que nous avons vu précédemment. Sachant que l'idée de cet atelier sur les arts d'Asie n'était pas, évidemment, tant s'en faut, hein, de faire une vision générale exhaustive de tous les arts de tous les territoires asiatiques, évidemment c'est complètement impossible, mais de piocher ici et là, dans un certain nombre de cultures, des ce que j'appellerais des fossiles directeurs, c'est-à-dire des œuvres qui permettent d'être très représentatives non seulement des cultures en question, mais des arts de l'Asie en général. Alors, je vous rappelle que l'acte 1 nous a permis de travailler sur la culture khmère, autrement dit le Cambodge, et vous vous rappelez que nous avions travaillé autour de ceci, qui est en fait l'extrémité d'une balustrade provenant de Prekan, un des ensembles bâtis d'Angkor, qui date du début du XIIIe siècle, et qui représente, vous en rappelez, un grand naga, c'est-à-dire un grand serpent, en l'occurrence Vasuki, et qui est tenu par deux devas. Les devas, vous savez, sont ces divinités ou ces génies favorables. Et je vous rappelle que cet élément, qui est conservé au musée Guimet, à Paris, par parenthèse, j'ai choisi dans ces ateliers beaucoup de choses venant du musée Guimet, me dire aussi qu'après tout, des choses que vous pouvez plus facilement que d'autres voir. Je ne suis pas sûr que vous passiez votre temps au musée national de Tokyo ou à Shanghai. Par contre, le musée Guimet à Paris est un peu plus accessible. C'est aussi pour ça, et puis aussi parce que j'avais beaucoup plus de documentation à titre personnel là-dessus, que j'ai voulu me polariser sur des œuvres conservées à Paris au musée Guimet. Je vous rappelle donc, en deux mots, un petit résumé de cet atelier, là, je ne vous demanderai pas de prendre la parole, que cet élément de balustrade provient donc de l'une des portes, l'une des gopuras de Prekan, cet ensemble cambodgien. Précisément, à l'origine, cet élément de balustrade se trouvait là. Vous voyez là le reste de la balustrade, représentant donc des devas tenant cet immense naga, cet immense serpent. Vous savez aussi que Prekan est un temple construit au début du XIIIe, ou dès l'extrême fin du XIIe, par Jayavarman VII, en l'honneur de son père, qui l'avait donc précédé. Je vous rappelle aussi que le naga, dont on avait pas mal parlé la dernière fois, est une figure importante dans le panthéon bouddhiste, en particulier parce que c'est le naga qui a protégé Bouddha. Vous savez, au moment d'une sorte d'immense inondation, Bouddha risquait d'être emporté par les flots. Naga est venu, a servi non seulement avec son corps, faisant des anneaux, a servi de coussin à Bouddha, qui a donc pu être protégé par cela, d'autant que Naga, avec son plastron, c'est-à-dire la partie supérieure de son corps, a couvert comme un parasol, si vous voulez, Bouddha, le protégeant. Et Bouddha, ainsi, qui était en pleine méditation, n'a même pas ressenti, n'est-ce pas, cette espèce d'énorme problèmes qu'il y avait autour de lui. Et vous voyez là, justement, une représentation datant à peu près de cette même époque, fin 12e, début 13e siècle, représentant Bouddha en méditation. Alors la partie inférieure n'existe plus, mais elle représentait donc les jambes croisées de Bouddha avec les anneaux du Naga. Mais vous voyez par contre le plastron du Naga, cassé en partie, mais qui protège donc Bouddha. Je vous rappelle que le Naga, que vous avez vu dans ces balustrades du temple de Prekan porté par des devas, le Naga est également important dans un certain nombre de grands cycles de, je dirais, de la mythologie, des mythologies orientales. Vous voyez par exemple ici un tympan, un fragment de tympan représentant le fameux épisode du barattage de l'océan de lait, dans lequel un immense Naga, et vous le voyez ici, hein, sert en quelque sorte d'élément pour permettre justement ce barattage de l'océan de lait. Alors je vais très vite là-dessus, puisqu'on avait pas mal travaillé la dernière fois sur ces questions, on ne va donc pas aller plus loin. Je vous rappelle aussi que cette balustrade que nous avons vue nous avait permis d'évoquer le règne de Jayavarman VII, qui est donc l'un des moments les plus favorables de l'histoire de la civilisation khmère. On est donc, encore une fois, fin 12e, début du 13e siècle. Je vous avais montré ce portrait de Jayavarman. Jayavarman qui donc est à l'origine de la construction du temple de Prekan, réalisé, je vous le disais, pour honorer son père. Mais c'est également à l'époque de Jayavarman VII que va être construit encore Tom, ce qui veut dire la grande ville, cité effectivement tout à fait considérable, dont vous voyez ici une des entrées, une des gopuras, avec d'ailleurs, comme par hasard, à nouveau, ces devas, ces génies hein, qui se trouvent de chaque côté de la jetée et qui tiennent le serpent Naga. Hein, vous les voyez ces figures et le grand Naga, n'est-ce pas, qui passe de l'une à l'autre. On est vraiment là, devant une sorte d'éléments tout à fait récurrents. Autre lieu que l'on avait évoqué à l'occasion de ce premier atelier, dans encore Tom, ce que l'on appelle le Bayon, qui est un grand temple construit par Jayavarman VII, et qui est un temple en l'honneur de Bouddha. Jayavarman, en effet, non pas tournant le dos au shivaïsme, mais relativement tout de même, a voulu imposer dans son territoire le bouddhisme, et la construction du Bayon a été justement un élément pour imposer, si vous voulez, le bouddhisme dans son territoire. Le bouddhisme devient en quelque sorte la religion d'État, et le Bayon est un élément qui vient, incarner cela. Je vous montre également un autre temple réalisé à l'époque de Jayavarman VII, c'est Taprom, qui a été réalisé en l'honneur de la mère de Jayavarman VII, le temple bien connu puisque vous savez qu'il a été laissé à la végétation. On a volontairement à Taprom laissé les fromagers avec leurs racines tentaculaires manger en quelque sorte le temple pour donner à voir l'état dans lequel ces monuments ont pu être découverts il y a deux siècles environ par les Occidentaux. Et puis, dernier monument que je vous avais rapidement montré, ce petit temple de Nikpean, qui est en fait une sorte de temple zodiacal, sans doute, et qui témoigne, toujours à l'époque de Jayavarman VII, de ces constructions monumentales. Donc vous voyez que, dans le premier atelier, on avait travaillé sur la question de la sculpture monumentale et des constructions monumentales au Cambodge, à la grande époque la culture khmère, qui correspond à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Voilà donc le résumé du premier atelier. Le deuxième atelier a eu, lui, pour objet de partir de quatre petits reliefs qui, à l'origine, faisaient partie d'un seul et même ensemble, des œuvres venant de ce qu'on appelle le Gandhara, qui est un territoire à l'intérieur du Pakistan, qui date du 1er siècle de notre ère, et qui représente des épisodes de la vie de Bouddha. En fait, cet ensemble de reliefs nous ont permis tout simplement de mieux comprendre, de nous familiariser avec la vie du Bouddha, ce qui est évidemment essentiel quand on travaille sur les cultures d'Extrême-Orient. Alors, puisqu'il y a sur ce petit ensemble quatre reliefs, on avait regardé en détail les quatre reliefs en question, passionnant quelque part parce qu'ils résument à eux seuls les grands moments de la vie du Bouddha. Ça, c'est la naissance, hein, la naissance de Bouddha, Bouddha Siddhartha, puisque quand Bouddha naît, quand il est jeune, il est dit Siddhartha, et c'est que Bouddha est né du flanc de sa mère. Hein. Vous voyez qu'elle est en train ici d'accoucher du Bouddha. Le deuxième relief de ce petit ensemble représente le grand départ. Hein. Bouddha aura, j'allais dire, une sorte de révélation dont je vous reparlerai dans un petit instant. Il va donc partir de la cour princière où jusque-là il était élevé. Et ce grand départ qui se fait en toute discrétion, vous voyez qu'il y a même des génies sous le cheval, qui portent le cheval pour pas qu'il fasse de bruit, hein, c'est le grand départ qui marque l'entrée de Bouddha dans, je dirais, sa vie mystique. Le troisième relief que vous voyez là représente la première prédication. Vous voyez, ou plutôt vous ne voyez pas Bouddha parce qu'il est assis au centre. Vous voyez quand même ses genoux. Hein. Il est assis dans la position du lotus. Hein. Vous voyez ses genoux qui dépassent de chaque côté de cette grande roue de la loi, puisque c'est bien la roue de la loi qui est représentée au centre. Vous devinez, si j'ose dire, l'arbre sous lequel Bouddha est assis. Et vous voyez des disciples de chaque côté. C'est donc l'évocation de la première prédication où Bouddha dévoile en quelque sorte les lois qui sont celles de la religion à laquelle il préside. Et puis le quatrième et dernier relief de cet ensemble que nous avions étudié, le voilà, il présente Bouddha Maitreya, c'est-à-dire le Bouddha à venir, celui que nous attendons tous, hein, et que voilà, qui est, vous le voyez, représenté avec des disciples, avec une gestuelle, dont je vous dirai un mot dans un instant, que nous avions analysé dans notre atelier. Hein. Vous voyez ce geste de la main qui est le geste de l'absence de crainte. Et donc, ce dernier relief nous permet en quelque sorte de résumer la vie du Bouddha. Alors, pour aller un petit peu plus loin, vous rappelez peut-être, nous avions regardé toute une série d'autres reliefs, sachant que ces quatre reliefs que je vous ai montrés qui appartiennent à un seul et même coffret, les quatre reliefs étant placés côte à côte, si vous voulez, pour faire une sorte de boîte à quatre côtés, hein, étaient à l'origine au-dessus d'un stupa. Un stupa, c'est ça, hein, voilà un stupa. Un stupa, c'est un reliquaire, une sorte de construction qui peut être toute petite, qui peut être immense. Hein. Voilà un stupa qui, aujourd'hui, appartient aux collections du musée Guimet. Les stupas sont donc des reliquaires, donc elles ont été des reliques de personnages importants. Eh bien, souvent, les stupas étaient dans la partie supérieure, vous le voyez sur ce relief, garnis d'une sorte de petite boîte sur laquelle on pouvait placer une hampe, sur laquelle pouvaient se développer des bannières, des drapeaux, que sais-je encore. Eh bien, les quatre reliefs qu'on avait étudiés et que je viens de vous remontrer étaient à l'origine, justement, ces quatre éléments qui, au-dessus d'un stupa, permettaient de maintenir une lampe comme celle-là. Hein. Et alors, j'avais eu l'occasion avec vous de travailler sur toute une série de reliefs réalisés au Pakistan, dans le Gandhara pour la plupart, à la même période, et qui nous ont permis de détailler un peu plus la vie de Bouddha résumée dans les quatre reliefs que nous devons voir. Là, par exemple, et je vous montre ça très très vite, on y a passé beaucoup de temps, mais c'est simplement pour vous mettre dans le bain. Hein. Je vous montre ici l'épisode tout à fait du début de la vie de Bouddha, puisqu'on y voit la reine Maya, hein, qui est ici visitée, j'allais dire, c'est une annonciation bouddhique, on pourrait dire, et qui est là en présence du sage Asita. Deuxième relief où on voit la naissance de Bouddha, hein, vous le voyez à droite, vous reconnaissez le relief qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous voyez Bouddha qui est en train de naître du côté de sa mère. C'est, à partir du moment où on a ces éléments en tête, on peut les reconnaître partout, c'est le but de nos ateliers. Hein. Et là, vous voyez Bouddha, jeune prince, qui règne dans son palais. Voilà ici l'épisode de la préparation du grand départ. Vous vous rappelez du grand départ qu'on a vu tout à l'heure sur notre boîte du stupa, si j'ose dire. Hein. Eh bien, avant le grand départ, il a fallu se préparer. Eh bien, là, vous voyez la nuit, n'est-ce pas, Bouddha, qui était couché auprès de sa compagne, que vous voyez là. Mais là, il se lève. Son serviteur vient lui amener son couvre-chef parce qu'il va partir. Ça va être le grand départ, qui est d'ailleurs représenté sur le relief que vous voyez là, hein, vous voyez à nouveau, n'est-ce pas, Bouddha au centre, un génie qui tient les sabots du cheval, c'est le grand départ, l'entrée, la grande vie mystique du Bouddha. Et puis il y a ensuite toutes les prédications de Bouddha qui sont présentées, voilà la première publication où il dévoile, alors cette fois elle est petite, tout à l'heure elle est grande, hein, la roue de la loi, et vous voyez qu'il a sa main vers le bas, qui est le geste du lien à la terre, hein, qui est un autre élément important de la gestuelle du Bouddha, et tout autour, un certain nombre de disciples qui l'assistent. Cette première prédication a lieu dans le jardin des gazelles, c'est pour ça que les gazelles sont très souvent représentées. voyez là aussi d'autres éléments de la prédication de Bouddha, avec toujours le geste que je vous montrais tout à l'heure, qui est celui de l'absence de crainte. Ici, un autre relief représentant une autre prédication, où Bouddha tient une main dans l'autre, et ce geste-là est celle de la mise en branle de la loi bouddhique. Hein. Vous savez, cette roue que je vous montrais tout à l'heure est en quelque sorte mise en branle par le geste que vous voyez là. Voilà ici une représentation de ce qu'on appelle les trois joyaux. La culture bouddhique tient en effet sur trois pieds, si j'ose dire, essentiels, qui sont Bouddha lui-même, premier joyau, qui sont d'autre part la roue de la loi, deuxième joyau, et d'autre part ce qu'on appelle la communauté, c'est-à-dire les gens qui se trouvent autour du Bouddha, si vous voulez, et qui assurent, j'allais dire, le prosélytisme du dogme bouddhiste. Et les trois joyaux, vous les voyez représentés en haut. Et puis évidemment, Bouddha va, entre guillemets, mourir. Hein. C'est le moment où Bouddha Sakyamuni, Sakyamuni veut dire, j'allais dire Bouddha adulte, Bouddha mûr, hein, entre dans le nirvana, ce qui peut être considéré comme, entre guillemets, la mort de Bouddha, si tant est que Bouddha meurt un jour. En tout cas, le Bouddha corporel va faire l'objet d'une crémation. Vous voyez là donc le bûcher funéraire de Bouddha, mais aussi du partage de ses reliques. Et vous voyez là un autre relief représentant les reliques que l'on est, les restes de Bouddha, finalement, qu'on est en train de se partager, et les émissaires qui repartent en direction de tout le monde oriental pour installer les reliques de Bouddha dans des stupas, dans des reliquaires, ici et là. Et puis on avait quasiment terminé par cette sculpture-là qui représente justement Bouddha. Il y a des Bouddhas assis, il y a des Bouddhas debout, il y a des Bouddhas couchés, on en avait parlé, je ne vais pas revenir sur l'atelier que nous avions fait. Et si je vous ai passé ces photos, c'est vraiment seulement pour vous remettre un peu dans le bain de tout ce qu'on a vu la dernière fois. Alors il est temps que nous abordions cette fois notre troisième atelier, maintenant que vous êtes à nouveau, j'espère, hein, dans le grand bain de l'Asie, on va pouvoir s'y replonger et regarder une œuvre qui va nous ouvrir la porte de ce troisième acte. Et que voilà. Alors moi j'ai beaucoup parlé, maintenant c'est à vous. Qu'est-ce que vous voyez là? D'abord on peut peut-être commencer, comme d'habitude, méthodologie oblige, hein, par dire ce que l'on voit sans interpréter rien du tout, c'est-à-dire quelle est la matière, qu'est-ce que ça représente physiquement, hein, ou à quoi, quelle est peut-être la taille, vers quelle époque serait-on, peut-être dans quel pays, et puis s'interroger sur la représentation. Que serait ce personnage?
On pense à une céramique.
Alors, une céramique, oui, tout le monde est OK avec ça?
Oui, je pense.
Oui. Donc une céramique. Vous avez raison, c'est une céramique. Une céramique qui est techniquement réalisée comment? C'est quoi précisément comme type de céramique?
La colorée, mais enfin.
Oui.
Le cuit, alors, avec différents émaux.
Oui.
Alors, ça nécessite peut-être plusieurs cuissons.
Alors, peut-être, là je saurais, on ne va pas vous dire du tout précisément la technique exacte, hein, qui a été utilisée pour faire cette pièce. Hein. C'est ce qu'on appelle une céramique glacurée, en fait.
Hein. Oui. Hein.
Des céramiques telles que celles qu'on pouvait faire dans les glaçons au XVIIIe, ces vases rouges avec des impressions jaunes. Hein. C'est exactement ce même type de céramique-là. Ici, évidemment, avec, vous le disiez, hein, une coloration beaucoup plus développée. Donc, on est effectivement devant une pièce en céramique. Maintenant, qu'est-ce que vous y voyez?
Un homme accroupi.
Un homme accroupi, oui.
Représentation de Bouddha, non?
Pardon? Représentation de Bouddha, peut-être, oui.
Un prêtre.
Ou d'un prêtre.
Ou d'un saint.
Ou d'un saint.
Il tient, je ne sais pas, un chapelet.
Il tient un chapelet. Alors, il est un peu cassé, notre chapelet. Hein. Certaines boules ont disparu. Puis, il y avait des parties détachées qui ont sauté, si j'ose dire. Mais évidemment, c'est un personnage qui tient un chapelet, ouais.
Mais la position des mains, est-ce une signification?
Sans doute. Sans doute. OK. Vous avez une idée de la taille que ça peut avoir?
60 cm. Ah, bon, oui.
Ça, à peu près?
Oui. Peut-être plus grand.
Un peu plus grand.
Plus grand. Presque grandeur nature, alors, dans ce cas.
Oui, s'il est assis.
Ouais. Et vous situeriez ça à quelle période et sous à quel endroit ? L'Asie, c'est grand, hein ?
Oui.
Et à quel moment ?
C'est assez raffiné, quand même.
Très raffiné. Aussi bien au niveau de la technique que du fait, hein.
Même réaliste.
Oui, absolument. Absolument, c'est très réaliste. C'est d'ailleurs une spécificité de cette culture-là. C'est l'espèce de grand réalisme, presque un peu brutal, hein, qu'il y a. Ouais. Ouais. Alors, on se lance une période, grosso modo, je ne demande pas une date précise, d'ailleurs, on n'a pas, mais... Et une période et peut-être un pays, enfin un territoire, en tout cas. Japon, Chine, Corée, Indochine, donc ça peut être, je ne sais pas, Thaïlande, Inde, Pakistan, Indonésie... pas d'idée ?
Non.
Et la période, pas davantage ? Bon, vous verriez plutôt ça, je ne sais pas... Comme ce qu'on vient de voir, les œuvres du Gandhara autour du 1er, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, ou bien dans des périodes plus antiques, anciennes.
Hein. Non,
il y a quelques années, vous rappelez, hein, on avait vu, vous rappelez qu'on avait vu toute une série de statuettes funéraires chinoises, vous rappelez de ça ? Enfin, je ne sais pas si vous étiez tous à cet atelier-là. On avait fait, il y a 3-4 ans, un atelier où on avait regardé des statuettes funéraires chinoises hein, qu'on mettait dans les tombes. Et on avait des choses qui, finalement, pourraient être, je ne sais pas, ça hein, fiait à ça. Ou alors, est-ce que vous verriez ça carrément plus tard, une œuvre du XVIIIe siècle ?
Non. Je sais pas, hein.
Ah non.
En céramique, ils étaient probablement plus avancés que nous.
Oui.
Mais...
Donc je sens comme un flottement dans la date. Bien. Donc on flotte au niveau du lieu, on flotte au niveau de la date. Bien. Enfin, de la période. Bon. Mais il n'y a pas une vague idée, non. Donc vous verriez ça. Très ancien, moyennement ancien.
Moyennement ancien.
Voilà, on va être. Voilà, comme ça on est. Hein. Et vous verriez ça au niveau des territoires. Plutôt du côté de l'Inde, Afghanistan, Pakistan, plutôt en Indochine, plutôt plus au nord, ou alors en Indonésie, pour parler de grands territoires. Non, pas d'idée.
Indochine, peut-être.
Indochine. Ok. Bon, on va voir. Hein. Dernière chose, donc, vous avez proposé un certain nombre d'éléments d'identification. Vous avez dit, tiens, c'est peut-être tout simplement le Bouddha ou un Bouddha. Parce que vous savez que vous pouvez être Bouddha autant que moi. Hein.
Mais il a des oreilles quand même.
Ah oui.
C'est main.
D'autres ont parlé d'un saint. D'autres ont parlé d'un prêtre.
Un prêtre. Non,
hein,
prêtre
voilà. Bon, est-ce que vous...
D'un moine.
D'un moine.
Ah oui. Il est trop bien habillé pour un moine.
Trop bien habillé pour un moine. Bon, donc on...
Oui, on flotte toujours. On flotte.
Bon, on a quand même un peu, je dirais, mis les choses dans l'entonnoir. On commence à y voir un peu plus clair quand même. Bien, ben, on va peut-être essayer de... Enfin, je vais peut-être vous donner la solution. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire là-dessus ? Est-ce que vous auriez d'autres éléments pour compléter ce que vous avez déjà pu dire ? Ou bien est-ce que... Vous pensez que tout est à peu près...
Le visage est très expressif.
Oui. Oui, vous avez signalé le côté très réaliste. Hein.
Réaliste.
Après, vraiment, il y a une tête d'un vrai homme, quoi. Enfin, oui. Hein.
Tu mens. J'ai déjà vu
C'est
ce chapelet-là.
Oui.
Je l'ai vu. Je ne sais pas où, mais je l'ai vu. Enfin, j'en ai vu.
Oui. En Occident, il y en a pas mal.
Non, mais pas en Occident.
Mais en Orient, oui.
Oui.
Ouais. Bon, vous donnez votre langue au chat, rien d'autre à... Non ? Bon. Alors, réponse. D'abord, nous sommes en Chine. Donc, vous voyez, c'est pas un piège. On est en Chine. On est entre les 10 et 13e siècles. difficile à dater quelquefois plus précisément. C'est une ode à Nestiliao. Vous savez, au XIIIe siècle, au XIIe-XIIIe siècle, la Chine va être plus ou moins coupée en deux, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir au nord, enfin au sud plutôt, commençons par là, la dynastie des Song du Sud, on les appelle comme ça. Il y a quelques années, on avait d'ailleurs fait un atelier sur la ville de Hangzhou, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était la capitale des Song du Sud. Et on avait visité cette ville, et on avait vu quels étaient les monuments principaux, ce qui s'y passait, etc. Je ne sais pas si vous étiez là, si vous avez un souvenir de ça. Bien. Et au nord, il y a une dynastie qui va s'imposer, qui est la dynastie dite Liao, qui est un peu au nord, la concurrente des Song du Sud qui sont au sud. Voilà. Et la dynastie Liao va développer un art que vous avez bien caractérisé. Hein. Vous avez remarqué à quel point cette figure était réaliste, etc. Justement, l'art Liao est très comme ça. Donc là, vous avez là une œuvre très typique de la dynastie Liao. Et alors là, vous avez, et je pense que ça vous dit tous quelque chose, la représentation du Luoran Tamrabhadra. Vous connaissez bien. Hein, aussi bien le Luoran que Tamrabhadra. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne vous demande pas Tamrabhadra, qui est le nom du personnage, mais Luoran. Donc vous voyez que, ça, autrement dit, ça n'est pas une représentation de Bouddha. Ça, déjà... Qu'est-ce que peut vouloir dire ce mot de Luoran ?
Han, c'est les Chinois.
Oui. Alors, je, par parenthèse, je n'étant pas sino... Je suis sinophile, mais pas sinologue. J'ai une des prononciations qui sont celles d'un occidental de base. Hein. Donc, moi, je prononce Luoran.
Luoran, non, c'est bon.
C'est bon ?
Oui.
Qu'est-ce que ça doit pouvoir dire, à votre avis ?
Je sais.
En fait, vous l'avez déjà dit. C'est-à-dire qu'un Luoran, c'est quelqu'un qui est un peu entre le moine, le disciple. Ça veut dire littéralement le méritant, Luoran. C'est-à-dire c'est celui qui, par sa posture, sa manière d'être, etc., mérite à son tour d'être vénéré, si vous voulez. Donc un Luoran, Luoran c'est un nom commun, hein, mais quand même marqué par ce sceau du bouddhisme, qui est une sorte de disciple de Bouddha, quelqu'un qui, par son exemplarité, est un proche, en quelque sorte, de Bouddha, en tout cas quelqu'un qui est amené à maintenir, et de manière prosélyte, à répandre le bouddhisme autour de lui. Voilà. À Luoran, c'est ça. À votre avis, qu'est-ce qui peut caractériser la manière d'être d'un Luoran ? Que vous voyez sur cette structure ?
Alors, peut-être sa position.
Oui.
Une imitation de Bouddha par les...
Oui, et cette position, vous la qualifieriez comment ? Bon, le Luoran est un excité qui bouge beaucoup, qui... Voilà, c'est ça, Luoran. Voilà. C'est d'abord quelqu'un de très statique. Hein. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas... Alors, j'ai même une sculpture, forcément, elle est figée. Bon. Mais enfin, vous voyez quand même que là, la posture même du personnage vous montre quelqu'un qui, a priori, est dans ses positions longtemps. Donc, effectivement, le Luoran, c'est quelqu'un qui est d'abord statique. Comment est-ce qu'on pourrait encore qualifier cette posture du Luoran, incarnée par celui que vous voyez là ?
Il prie.
Oui, est-ce qu'on pourrait d'ailleurs peut-être utiliser un mot encore un peu plus large que simplement la prière ?
Il médite.
Voilà, il est en méditation. Ouais. Vous voyez ?
On dirait qu'il est anxieux quand même, il a les sourcils froncés.
Oui, il y a une certaine... en tout cas, on sent une sorte de... Comment dire ?
Une certaine gravité.
Oui, une certaine gravité. Je dirais peut-être plutôt gravité qu'anxiété. Oui, ouais. Gravité. Qui à votre avis, d'ailleurs, suggère quoi, peut-être ?
La réflexion.
Pardon ?
La réflexion.
La réflexion. Et plus au-delà de la réflexion... Qui fait quand même qu'il y a une gravité, c'est pas... Oh, ben tiens, je vais réfléchir comment je vais faire mes yeux sur le plat ce soir, hein. Bon, soit quelque chose d'un peu plus fort, quoi. Hein.
Oui, c'est profond. C'est...
Voilà. Qu'on pourrait qualifier de quoi d'autre ? Un mot mystique. Un peu à la mode, mais qui est tellement peu utilisé.
Mystique, un peu mystique.
Pardon,
un peu mystique.
Alors, mystique, certainement.
Ouais, je n'ose pas dire philosophe, mais...
Il y a quelque chose de ça, sans doute. Moi, je dirais peut-être le mot d'engagement, si vous voulez.
Hein,
vous voyez, c'est quelqu'un, c'est le Wuhan, est quelqu'un qui est déterminé dans son action. Hein. Une action qui est une action, je dirais, statique, mais déterminée.
Alors, présent à son monde.
C'est ça. C'est-à-dire qu'un Wuhan, ce n'est pas un mollasson qui ne rien faire pour boire une bière. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Un Wuhan, c'est quelqu'un qui est absolument déterminé. Alors, c'est pas l'idée occidentale. Hein. Nous, la détermination, elle passe par l'action, forcément. Hein. Mais en Orient, pas forcément. La détermination, elle peut être au contraire très intérieure, très figée, mais pourtant très effective. Hein. Donc, le Wuhan est quelqu'un qui est déterminé, qui est engagé dans dans son statisme même, si vous voulez. Hein. En ce sens, il est un peu différent du Bouddha, ou de celui qui, avant d'être Bouddha, n'est que Bodhisattva. Vous savez que quand un jour, vous serez sans doute Bouddha, n'est-ce pas? Mais avant d'être un Bouddha, vous serez un Bodhisattva, qui est le niveau inférieur. Hein. Avant d'être Bouddha, on est d'abord Bodhisattva. Hein. Eh bien, le Bouddha et le Bodhisattva sont des gens engagés. D'ailleurs, vous l'avez vu quand même. Hein. Bouddha, vous vous rappelez des pyroliefs du monde arabe qu'on a vu tout à l'heure, hein. Il en fait des choses. Hein. Il y a le grand départ, il fait des prédications. Ça bouge, Bouddha. Hein. Donc Bouddha, si vous voulez, ça y en mène, on dirait aujourd'hui. Les Lohan sont au contraire des gens qui sont tout en contemplation et en méditation. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien, mais ça veut dire quand même qu'il y a une sorte de concentration dans l'immobilisme, comme ça, qui est fondamental. Hein. Vous avez parlé de moines tout à l'heure, vous avez parlé de saints. Voilà autant de noms, de mots qui peuvent être un peu synonymes du mot Lohan. Alors, pour arranger les choses, et puisqu'on est en Asie, et que l'Asie, c'est des territoires très nombreux, selon les territoires, les Lohan ont des noms différents. Par exemple, en Inde, qui est, je vous rappelle, le pays d'origine du bouddhisme, hein, on appelle les Lohan des Arhats, hein, A-R-H-A-T. Au Japon, on les appelle des Rakan. Hein. Donc, selon les territoires, le Lohan, a un nom différent, si vous voulez. Hein. En Chine, le mot, c'est Lohan, et qui correspond à cette réalité que nous allons voir. Alors, je crois par parenthèse que, en cette période que nous vivons, dans le moment qu'on puisse dire qu'elle est assez, comment dire, spéciale, pour ne pas dire un peu anxiogène, etc., nous autres occidentaux, qui savons tout, surtout, qui sommes les meilleurs, on est bien d'accord, hein, on a peut-être à s'inspirer un peu de ça. Hein, nous qui sommes dans le bouddhisme permanent, etc., pouvons peut-être prendre un certain nombre d'éléments pas inintéressants de cette manière d'être, si vous voulez, qui passe par un certain statisme. Alors on appelle ça en Occident de manière japonaiso-ignorante le zen, n'est-ce pas, hein, ce qui ne veut pas dire grand-chose en fait pour nous, mais voilà, l'idée en tout cas est de voir que une certaine inaction, mais d'engagement dans la méditation, peut-être une manière, hein, de regarder le monde et de l'utiliser. Donc je crois qu'on est là, finalement, devant quelque chose qui peut, surtout dans des périodes comme celles que nous vivons, nous apprendre des choses. C'est pour ça que j'ai voulu commencer cette fin de série, si j'ose dire, par Lohan. Je me suis dit que c'était une manière de faire une séance de yoga, si j'ose dire, entre guillemets, et de nous aérer un peu. Et alors, pour que vous sortiez de cette séance en sachant tout sur les Wuhan, ou bien les quoi, comment est-ce qu'on les appelle les autres, dans les autres pays d'Asie?
Arhats.
Les Arhats.
Rakan.
Ouais. Pour que vous sachiez tout sur ces différents types de disciples du Bouddha, appelons-les comme cela, hein, je voulais avec vous faire un petit tour de tous les pays d'Orient et que nous regardions toute une série de ces figures pour essayer de nous familiariser avec elles. Ce qui fait que la prochaine fois que vous irez dans un musée, au lieu de regarder, ou pas regarder les vitrines, de passer devant en vous disant « Oh, ben c'est des Bouddhas », et puis de passer à la suivante, et puis de terminer votre visite beaucoup plus rapidement que ce que vous auriez dû faire, ben vous arrêterez devant, et vous saurez retrouver où sont les Bouddhas, les Bodhisattvas, les Lohan, les Rakan, etc. Tout ça sera connu pour vous. Voilà. Donc c'est ce travail-là qu'on va faire. Alors, commençons par ces trois sculptures.
En pierre.
Qui représente Trois personnages, voilà. Plutôt masculin d'ailleurs. Hein.
Oui. Alors, il y a des lourds hommes-filles.
Alors, il y a, en tout cas, disons que le mot Luohan est un mot qui désigne un type de méritant, hein, bien particulier. Hein. Mais on va dire qu'autour de Bouddha, il y a différents niveaux, si vous voulez, de disciples. Hein. Et j'allais dire le niveau premier, c'est ce qu'on pourrait appeler les moines. Je crois que quelqu'un les a allusions tout à l'heure, d'ailleurs. Hein. Alors, il y a les moines, il y a aussi des nonnes.
Hein. Oui, oui.
Donc, il y a des nonnes dans l'Orient. Hein. Par contre, des Luohan, je n'en connais pas de féminines. Alors, pas tous des civilisations de l'Orient, mais les Luohan, a priori, ce sont des garçons.
D'accord.
Alors, trois messieurs, justement, là. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez les décrire pour encore une fois qu'on se fasse à... pour que quand vous arrivez dans un musée, qu'on vous mettra dans une vitrine pour que vous puissiez comprendre ce que vous voyez. Encore une fois, c'est ça, le but. On a des yeux, bah, utilisons-les pour analyser, pour comprendre ce que l'on voit. Hein. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez voir qui caractérise ici la présentation de ces figures ?
Celui du milieu, il est accroupi.
Oui, ouais.
Les autres, je ne suis pas sûr.
Les autres sont assis, effectivement, ouais. Mais celui du milieu était effectivement dans la position de ce qu'on appelle la région du lotus.
Ouais.
Oui.
Ils sont presque souriants.
Oui.
Il y en a un qui a un animal.
Oui, il y en a un qui a un animal.
Un chien.
Oui, on ne sait pas trop. Ça peut être un chien, que ça pourrait être d'autres. Hein? Chien peut-être. Si c'est pas un chien, ça peut être quoi? Un rat.
Non,
non.
J'avais entendu un rat.
Non, vraiment
pas.
Un chien méchant. Oh, est-ce qu'un Luohan serait avec un chien méchant?
Non,
non.
Non. Si c'est pas un chien, ça peut être quoi? Alors, je ne demande pas la race précise. Hein. Ça peut être un chien, rien d'autre. Moi, je dirais que ça peut être un petit fauve. Hein.
Ah, carrément.
Ah, oui. Pourquoi pas? Quand vous êtes un Luohan, de toute façon, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien arrêter un éléphant qui va vous écraser, ou bien... Voilà, vous, avez, vous êtes un méritant, n'est-ce pas? Donc, vos capacités, celles que vous avez gagnées, non pas en bougeant dans tous les sens, mais au contraire, en étant sur l'intérieur, en essayant de méditer, vont vous permettre de faire des choses remarquables. Hein. Et pourquoi pas être accompagné d'un tigre ou d'un lion? Vous êtes un Luohan.
Il a un collier quand même, le petit.
Oui, ah bah justement, c'est encore plus remarquable.
Ils ont des instruments
Oui, ils ont des attributs.
Ouais, ils ont une espèce de palette.
Hein. Oui, qu'est-ce que ça peut être d'ailleurs, ça?
Une garouche.
Taper ta mouche, oui.
Un quoi?
Taper ta mouche.
Oui, alors, taper ta mouche, oui, mais est-ce qu'un Luohan va taper les mouches?
Sûrement pas.
Non, alors qu'est-ce qu'il fait?
Il les chasse.
Il les chasse, autrement dit, ce sont des
chasse-mouches.
Hein. Et ben nous, c'est pour nous autres pauvres occidentaux qui canardons tout ce qui est à notre portée. Hein. On voit une souris, on la bute, on voit un rat, on le tue, on voit des vaches, on les bouffe, on sait faire que ça. Hein. Et bien en Extrême-Orient, non. En Extrême-Orient, non, l'animal est vu d'une autre manière. Hein. L'animal est un accompagnant de l'humain, ce qu'on est incapable de faire en Occident, par parenthèse. Hein. Voilà. Donc le Luohan, si vous voulez, est quelqu'un. Oui, bon, largement. Je force un peu le trait, vous connaissez. Hein. Voilà. Donc là, si vous voulez, le Luohan peut être effectivement accompagné d'animal.
Oui.
Il y en a qui tient. Celui de gauche, il a quelque chose dans la main.
Oui.
Il a un truc dans la main.
Oui. Qu'est-ce que ça. Honnêtement, j'ai pas d'idée. Enfin, j'ai des idées, mais je ne sais pas. Ça, il y a plusieurs solutions. Je ne sais pas précisément là, dans ce que je sais sur ce groupe, c'était pas indiqué. Je ne sais pas.
Celui du centre a une coiffure, pas les autres.
Oui.
Et il a une position beaucoup plus statique.
Oui.
Avec les mains dans les
oui.
manches.
Oui, absolument. Absolument. D'ailleurs, ces trois personnages sont considérés, ça je peux vous le dire, plutôt comme des moines, hein, c'est-à-dire le premier niveau de ces figures qui entourent Bouddha. Hein. Alors, qu'ils soient l'entourés au moment où Bouddha existait, soit... entoure Bouddha après son existence, même encore que Bouddha existe toujours, si j'ose dire, hein, puisque enfin, l'idée n'est pas celle du corps, mais de l'esprit. Hein. Et on voit plutôt dans ces figures-là, plutôt des moines, hein, le Luohan étant, si j'ose dire, le niveau au-dessus. Hein. Le Luohan, c'est celui qui, encore une fois, est un méritant, qui, par son attitude même, cette espèce de statisme engagé dont je parlais tout à l'heure, mérite déjà d'être vénéré. Hein. Ce n'est pas le cas d'un moine. Le moine est là pour, j'allais dire, être en quelque sorte le passage de la région vers le monde, en quelque sorte. Hein. Alors, oui, est-ce que vous avez quand même une petite idée sur cet objet? Moi, j'ai une idée, mais en même temps, je n'en suis pas certain. De quoi?
Ça fait penser à une offrande,
oui. Voilà. Dire. Oui. Alors, ça peut être une offrande.
Offrande de quoi?
Ça, c'est une espèce d'objet.
Une petite boulette de riz.
Pardon?
Une petite boulette de riz.
Oui. Donc, ça peut être ça. Mais une offrande que vous verriez dans quel sens?
Ah oui,
parce que les moines n'ont pas ni de système de retraite qui leur permet de vivre, hein, de salaire quotidien.
Ah non, voilà. C'est peut-être la quête qu'il a faite pour manger.
Voilà. Ah, oui. Hein, donc c'est peut-être quelque chose là, on donne aux moines.
Oui, oui. Voilà,
hein. Et d'ailleurs, on donne aux loins aussi. Hein. Enfin, ou à la rate, ou au fracas. Hein. Bien. Oui, une date et un pays. Au hasard, hein. Vous pouvez dire n'importe quoi, on s'en fiche, hein. Vous ne serez pas noté. Hein.
Antérieur à la céramique.
Oui.
Mais...
Et un pays peut-être? Non. Pas grave. Allez, continuons à nous familiariser avec ce petit monde.
Ah, ça c'est
génial. Alors.
Une toile?
Oui.
Tissu.
Oui.
Une peinture sur tissu.
Alors, c'est sur papier, mais papier. C'est une peinture. Hein. Une peinture. Qu'est-ce qu'on y voit? Alors, on va se répéter, mais c'est encore une fois pour que vous familiarisez avec
japonais.
Cette figure fondamentale. Hein. Pardon?
Japonais.
Vous verriez une chose japonaise, ok?
Oui, c'est vrai, ça fait penser.
Why not?
Une tête de dragon ou je ne sais quel animal.
Bah, c'est le Loran qui est assis sur un dragon.
Un Wuhan assis sur un dragon, ok. Ce Wuhan, vous le caractériseriez par quoi?
Et il a une auréole.
Il a une auréole.
Oui.
C'est amusant, là, hein, parce que vous avez au niveau de l'auréole, mais on en a vu hein, dans le relief du Gandhara déjà. Hein. Il a une auréole, ce qui est évidemment un point de contact, enfin de contact, une coïncidence avec l'Occident, bien sûr. Et vous disiez tout à l'heure que le Wuhan, on pourrait dire. On pourrait utiliser le mot saint, c'est pas tout à fait faux. Il y a finalement entre le Wuhan et le saint quelque chose d'un peu équivalent, si vous voulez.
Et le truc qu'il a sur la tête, là, c'est derrière ou c'est sur sa tête?
Alors c'est quoi?
C'est pas un cheval.
On dirait un dragon aussi.
Alors c'est effectivement terminé par une tête de dragon, vous avez raison. Mais c'est quoi?
Une branche.
Oui, c'est une sorte de. Mais cette branche, c'est quoi?
Un bâton.
Un bâton. C'est un bâton qu'il tient. Hein. Vous le voyez peut-être là. Hein. Voilà, ça va entre ses jambes, ça passe derrière lui. C'est donc un bâton qu'il tient, et le bâton est terminé par un dragon. Je précise qu'en Orient, le dragon n'est pas forcément une figure, j'allais dire, méchante et dramatique comme en Occident. Hein. En Orient, le dragon peut être tout à fait favorable. Hein. Donc le dragon n'est pas, il peut être aussi terrible et adomestiqué, mais le dragon n'est pas uniquement cet être négatif. Qui est celui de nos civilisations.
Hein. Et le premier plan est uniquement décoratif ou au centre, c'est bizarre. Les fleurs, je veux bien, mais...
Pensez à ça.
Oui, les fleurs, ça va. Mais le reste, ça.
Oui,
bizarre.
Alors, vous soulignez avec raison le côté un peu bizarre, oui. Un peu bizarre. On trouverait d'autres mots, je suis d'accord avec vous, c'est volontaire.
C'est symbolique.
Oui, symbolique, c'est, oui.
Pas symbolique, mais traditionnel.
Ouais.
C'est une façon de représenter les choses.
Mais en poussant un peu, parce qu'effectivement, je ne suis pas sûr que si vous allez en Orient, vous trouviez exactement ce genre de plan, de relief, de truc, je ne sais pas comment appeler ça, que ça, par exemple. Autrement dit, il y a une dimension de bizarrerie, quoi aussi. Le Wuhan, ça ne court pas non plus les rues. Hein.
Est-ce que c'est un paysage, comment dire,
une rêverie peut-être?
Oui, voilà, une dimension un peu onirique, ou un peu fantastique.
Oui. Hein.
C'est-à-dire le Luohan, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Vous n'avez pas trouvé un Luohan derrière la porte dans le couloir, là. Le Luohan, c'est un personnage quand même d'exception. Hein. Il n'y en a pas tant que ça, si vous voulez. On y reviendra tout à l'heure. Donc, un Luohan, il n'est pas là. Je ne dis pas que le centre Janzé n'est pas un lieu d'exception, mais il n'est pas dans le centre Janzé, quoi. Hein. Il va être dans un lieu, un territoire spécial, bizarre, étrange, fantastique, onirique. Hein. Vous n'avez pas un Luohan assis ici. Vous êtes tous des Luohans en puissance, je suis sûr, mais assis là sur une chaise de cette salle. Vous voyez encore que pour un Luohan, à mon avis, ça c'est fantastique quand même. Mais bon, si vous voulez, le territoire où il se trouve est un lieu fantastique. Hein. Et ce Luohan, physiquement, vous le caractériseriez comment ?
Là, il médite aussi, je pense.
Il médite. Oui. Mais encore. Oui, il y a des choses qui me frappent quand même quand je le vois.
Il est barbu.
Alors voilà, il est barbu. Hein, il est un peu. Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui ne va pas chez le coiffeur toutes les 30 secondes. Hein. Vous parliez du Japon, si cette œuvre est japonaise, vous avez sans doute vu déjà des œuvres japonaises. Souvent, quand même, on voit des gens plus attifés que cela. Hein. Là, on a quelqu'un dont on sent bien son problème et pas d'aller chez l'équivalent du barbier ou du coiffeur tous les matins. Hein. Donc, il y a effectivement une dimension de renoncement à la, je dirais, à la représentation extérieure. Ce n'est pas le problème du Luohan. Il a sa barbe qui pousse, ses cheveux qui poussent, puis basta. D'accord ? Absolument, ça c'est très important. Qu'est-ce que vous voyez encore d'autre qui pourrait vous étonner ?
Il a une sorte de tonsure.
Oui.
Ou de calotte.
Ça arrive à des gens très bien. Hein. Mais effectivement, hein,
non, mais c'est
ils ne sont pas des Luohan toujours. Hein. Hélas. Mais vous avez raison. Hein. Donc il y a une dimension de cette tonsure, cette calotte, elle peut évoquer quoi aussi ?
Alors, ça avait en Occident une signification de sagesse un peu.
Oui. Et ça va souvent, cette idée de sagesse, avec une autre notion.
D'âge.
Voilà. Hein. Vous trouverez guère de Luohan très jeune. Donc les Luohan, généralement, sont des gens d'un certain âge. Je vais dire. Hein. Bon, il y a une chose qui me frappe aussi.
Alors, est-ce que le rouge de son vêtement donne une signification aussi ?
Alors, dans les notices que j'ai lues sur cette œuvre, il était simplement indiqué que le rouge était là pour des raisons esthétiques. On est quand même devant un peintre qui a fait une œuvre. Et donc, effectivement, ce rouge vient là qui cogne, si j'ose dire. Hein.
Bah, sa tenue aussi, elle est négligée.
Voilà.
Aussi, parce qu'il y a les sandales.
Oui, on sent quelqu'un donc, qui a mis un truc sur son dos, et puis point. Quoi, hein.
Voilà. Un peu affaissé, même.
Un peu
affaissé.
Oui, oui.
C'est l'âge.
Moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est ça, quand même. Vous ne l'avez pas remarqué, mais...
C'est son souci.
Ah oui, ils sont quand même très grands. Hein. Oui. Et tombants. Les sourcils, si vous voulez, on peut avoir des sourcils très fournis, mais enfin, de là, ce qu'ils arrivent là, ça me paraît beaucoup, non ?
Non. Ça sera un maquillage ?
Non, c'est pas un maquillage. Alors, bon, ça fait partie un peu du côté laissé aller dont vous parliez tout à l'heure.
Hein. Oui, les sourcils.
Bah, les sourcils, ça ne pousse pas comme ça, quand même.
Bah, je trouve qu'ils sont très longs, oui.
Ouais.
Ça fait partie un peu de quoi, de que l'on disait tout à l'heure par rapport au paysage ?
Au fantastique.
Oui, c'est un personnage qui est... Je ne sais pas, vous voyez tous les jours quelqu'un assis sur un espèce de monstre comme ça ? Si vous les voyez, dites-le moi, parce que ça m'intéresse. Voilà, si vous voulez, des personnages comme ça, vous n'en croisez pas tous les matins. Voilà, il y a une dimension extraordinaire. Hein. Donc, le Luohan, il a quelque chose de... Il a des traits physiques qui ne sont pas ceux de Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Une date, peut-être ? Non ? Pour l'instant, eh ben on va passer au suivant. Ah, je vais vous enfiler des Luohan. Hein.
C'est macabre.
Macabre ?
Bah oui, celui de droite, il est décharné. Hein.
Décharné.
Il y en a qui est plus beau du coup. L'autre, il est remplumé, mais.
Oui. Ah, il y a des natures différentes, il y a des natures plus rebondies que d'autres.
C'est pas mal.
Alors là aussi, ben, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voyez qui peut être... Alors ça va redonder ce qu'on a vu avant, mais l'idée, c'est que pour connaître des trucs, il faut souvent les répéter. Hein.
Ils sont assis sur des sortes de rochers, l'un
oui,
et l'autre.
Oui.
Un peu isolés, comme s'ils étaient sur une île minuscule.
Oui, alors le paysage continue, mais il y a effectivement des rochers qui servent un peu comme d'un socle qui les mettra en valeur, oui. Alors, vous avez remarqué que celui de droite était très décharné, oui.
Oui, est-ce qu'elle présente la mort?
À votre avis?
La fin de vie, en tout
cas. Pardon?
Peut-être pas la mort, mais la fin de vie, parce qu'il est...
Alors peut-être, encore vous savez, il y a des gens maigres qui sont... qui vivent, hein. Oui, on ne sent pas à droite un personnage dans une forme, enfin, ce qui est pour nous la forme extraordinaire.
Il a plus suite gauche, oui. son vêtement sur lui.
Oui.
Suite alors, gauche, c'est un enfant, ou enfin, je sais pas, c'est...
Un enfant?
Non, il a une moustache, non?
Il n'a pas une moustache, oui.
Alors, il a, que je vous dise de près, oui, il y a un peu une vague moustache, et puis une barbiche, là, vous savez.
Ah bon, alors.
Oui, une vague, bon. Puis il y a autre chose.
Il oui.
Encore, oui. Enfin, il a des petits jours sur le côté.
Bon, alors, c'est pas un enfant.
C'est pas un enfant.
Bon, la deuxième main cachée.
Oui. Mais là, il a une chose physique qui, moi, me fera beaucoup sur le gauche. Alors, c'est Edouard, vous avez raison, hein, il est décharné. Bon, c'est vrai que quand on est à Wuhan, on ne va pas au supermarché tous les deux jours pour faire ses courses. Hein. Autrement dit, vous avez toute chance aussi de vous décharner un peu, sauf si vous avez une nature un peu plus ample, on va dire, et généreuse. Voilà.
Il est quand même très ridé, donc il est vieux. Hein.
Oui, en plus, les Wuhan sont toujours... Enfin...
Celui de gauche, il est bien en chair, par contre.
Celui de gauche, il est bien en chair. Ouais. Bah, vous savez, vous avez des bouddhas assez... Bouddha, il va du décharné au replet. Hein.
Oui.
Mais c'est vrai que quand on médite, on ne pense pas forcément à manger son casse-croûte. On est tellement loin de la vie quotidienne que le côté décharné évoque effectivement aussi ça. Mais ils ont l'un et l'autre... Notamment celui de gauche, donc ça se voit. Non, vous ne voyez pas des caractéristiques physiques spéciales.
Physique. Les pieds.
Qu'est-ce que ça?
Ah oui.
Il pleure?
Ah oui.
Il pleure pas. Regardez, vous voyez ces sourcils qui
c'est
descendent.
Encore ces sourcils qui
font des vraies nattes.
Ah,
vous ne voyez pas là ça
si,
vous ne voyez pas ici quelque chose qui passe devant le visage ouais. Ça ne voit pas de loin ça
si, mais
je croyais
que c'était un...
Ah non, c'est le sourcil.
Le pli de la joue, le pli de la
joue. Ah non, c'est, en fait, c'est les sourcils. Ce personnage, espèce d'immense sourcil qui tombe comme ça.
Qu'est-ce que ça signifie?
À votre avis? On n'a pas déjà vu ça un peu?
Ben, celui d'avant.
Notre peut-être japonais, vous rappelez?
Plus jeune.
Ah, d'ailleurs, si c'est un japonais, c'est pas loin, c'est un quoi?
Un japonais, un raka.
Voilà. Bon, je tiens à dire que très souvent on utilise le mot générique arate, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est peut-être. Le mot commun le plus... C'est presque passé dans la langue française, ce mot d'arate. Hein.
Et il n'a pas de grands sourcils, le...
Celui de le droite... On voit
pas bien.
Moins. Par contre, vous voyez qu'il est couvert d'une sorte de toison sur les épaules, sur les bras.
Ah oui. Donc c'est un signe, ils sont poilus.
Oui, ils peuvent.
Poilus.
Ils peuvent.
C'est une
peinture
sur toile. Oui.
Ah, sur quoi c'est? Tiens, c'est vrai, on n'a pas parlé.
Peut-être du bois.
Du bois. Non,
soie.
Soie. Ben non, c'est ni bois, ni soie.
Alors,
ni toile.
Alors, papier.
Pas papier.
Papier.
Pierre.
Ah.
Quel genre de pierre?
Ardoise.
Non. Une pierre très utilisée en Extrême-Orient. Enfin, très.
Machiste.
C'est du jade.
Jade.
Et en fait, ce que je vous montre là, c'est les deux côtés d'une même tablette de jade qui est peinte. Avec quoi d'ailleurs? De chaque côté.
Peinte.
Oui.
De l'encre.
Enfin, peinte. Il y a deux techniques.
C'est de l'encre, non?
Alors, il y a d'une part de l'encre blanche.
Elle doit être gravée un peu, non?
Non, c'est vraiment peint sur la pierre. Enfin, peint. Le reste, c'est de l'or.
Pas.
Non.
Non, c'est pas guiné.
Oui, alors revenons-en avant de passer au suivant, à cette pilosité dont je vous faisais remarquer à droite et à gauche la présence, qui évoque quoi qu'on a déjà évoqué dans la représentation précédente. Vous voyez tous les quatre matins ici en France des gens, ou en Chine d'ailleurs, ou en Japon, enfin bref, en Orient. Des gens avec des sourcils comme ça?
Non, c'est fantastique.
Alors, c'est irréel. Hein. Donc, il y a, chez les Arats, les Wuhans, cette dimension d'irréel, hein, de fantastique, bref. Ils deviennent tellement exceptionnels, si vous voulez, qu'ils deviennent très spéciaux, très particuliers. Ils sont bizarres, ils sont étranges. C'est pas monsieur tout le monde, encore une fois. Hein. Il y a peut-être aussi une dimension, après tout, Bouddha vient d'ailleurs. Hein. Donc, ses disciples... peuvent également avoir cette dimension étrangère. Hein. Donc on représente souvent, par exemple, les Luhan, avec des traits physiques qui ne sont pas ceux des Chinois. Hein. Parce que Bouddha n'est pas chinois, ben les Luhan de Bouddha ne le sont pas non plus. Donc ils ont des caractéristiques bizarres. Et vous savez, autrefois, Internet n'existant pas, on ne savait pas très bien à quoi ressemblait un Indien quand on était en Chine. Il y avait une petite idée, mais bon. Donc on mettait des caractéristiques physiques spéciales, pas du tout local, pour suggérer cette dimension étrangère. D'accord ? Une date, un pays ? Non ? Eh bien, on verra tout à l'heure. Une sculpture, en quelle matière ? Pierre. Un type de pierre, peut-être ? C'est pas trop difficile à voir. Pierre bien dense, bien brillante.
Marbre ?
C'est du marbre. Brillante contre la folie, bien sûr. Alors, là, qu'est-ce que vous pourriez me dire ?
On a l'impression que c'est une femme.
C'est vrai qu'il a un côté androgyne, ce personnage. Et qu'est-ce qu'il frappe par rapport au précédent ?
Il est debout.
Il est pas mal, lui, pour une fois. Il est debout, voilà. Donc, il n'a pas ce côté un peu bizarre, on va dire, hein, des précédents. Et j'allais dire vieillard, un peu grigou, si je prends nos termes occidentaux. Hein. Je me demande quelle est sa caractéristique par rapport aux autres, encore. Debout, c'est vrai. Ben, c'est qu'il est jeune. C'est qu'il est jeune. Les précédents, ils étaient, on l'a vu, mûrs, on va dire. Hein. Là, vous avez quelqu'un qui a l'air très androgyne, mais qui est également très jeune.
Qui tient quelque chose.
Oui.
Qui tient une bouteille.
Oui, une sorte de bouteille.
Ouais.
Je n'ai pas, dans la littérature que j'ai lu à propos de ça, vu d'évocation de cette bouteille. Je ne sais donc pas ce que c'est. Quant à l'autre main, ben...
Elle devait peut-être faire un signe.
Peut-être. Il y a peut-être un autre attribut, parce qu'on voit l'arrachement de quelque chose de rond, je ne sais pas.
Ouais.
Et là, je n'ai pas... Enfin, dans ce que j'ai lu sur cette sculpture... Donc, décidément, cette sculpture-là est intéressante, parce qu'elle vous montre un autre type de Luhan, d'Arat, c'est-à-dire un personnage qui, vous voyez, n'est pas forcément... un personnage âgé, un peu hirsute, dans un paysage fantastique. Alors évidemment, il n'y a pas de paysage, c'est une sculpture. Hein. Mais vous voyez, on est loin de cette dimension un peu extraordinaire que je vous montrais précédemment.
Oui, et puis le vêtement est quand même plus luxueux.
Mais
il est
coloré,
en plus.
Pardon ?
Il est coloré ?
Oui. Ok ? Une idée d'une date et d'un lieu ?
Toujours pas.
Eh ben, on se mouille ce matin, cet après-midi. On se mouille dehors, mais pas dedans.
Céramique.
Hein. Bon.
Céramique.
Et là ?
Céramique.
Quel genre de céramique ?
Glacurée.
Pardon ?
Glacurée, alors.
Oui, oui, mais c'est un type de céramique particulière. Qu'on connaît en
porcelaine.
C'est de la porcelaine. Hein.
Oui.
Alors, oui, qu'est-ce que vous pourriez me dire, là aussi ?
Il est assis.
Il est assis. Il est assis sur une sorte de socle, enfin.
Tabouret.
Oui.
Il est bien habillé.
Bien habillé. Vous voyez, les Warren ne sont pas forcément non plus couverts d'oripeaux. Hein. Ouais. En tout cas, dans leur représentation.
Jeune aussi, non ?
Plutôt jeune. Vous voyez, ça va un peu contredire ce qu'on a dit au départ. Vous voyez, de l'un, forcément, âgé, barbu, etc. Là, on a, comme le précédent, un Warren plutôt jeune.
Alors, est-ce qu'il quête encore ?
Est-ce qu'il
quête ?
Alors, à votre avis ?
Il a les yeux baissés et il regarde, je sais pas.
Oui. Bon, on a vu que ce côté, j'allais presque dire faussement endormi, hein, est une chose qu'on a déjà repérée tout à l'heure. Vous vous rappelez dans ce Lohan couvert de rouge, avec son bâton dragon, hein, vous avez vu qu'il était un peu affaissé, qu'il avait ce côté un peu faussement endormi. C'est pas qu'il s'endorme, les Lohan, hein, c'est qu'il sont en méditation. Hein. Oui, alors, est-ce qu'il fait l'aumône ? Peut-être. Il y a peut-être une autre solution, qui est d'ailleurs celle que je crois et que je crains, quelque part.
Il avait quelque chose, hein.
Voilà, c'est qu'il avait des attributs qui ont disparu. Je pense qu'il y avait des attributs rapportés dans la main droite, dans la main gauche. Dans la main gauche, on voit qu'il tenait quelque chose, qui est là, qui devait être enfilé, vous voyez, dans le creux des doigts. Il devait soutenir quelque chose dans la main droite. Les deux ont disparu. Les attributs étaient rapportés, ils ne sont plus là. Une date, peut-être ? Là, c'est plus facile. Alors, les précédents, c'était dur. 16e. Ok. Et un pays ?
Chine.
Chine, 16e. Allez. Là, il s'en passe des choses. Hein. Alors, une fois, on va répéter, je vous en ai dit, mais c'est volontaire. Hein. Si on ne répète pas, on oublie. Alors, qu'est-ce qu'on voit ?
C'est une peinture sur toile.
Alors, c'est une peinture sur toile, oui. Une technique quand même un peu particulière de peinture. Parce que vous voyez, c'est pas la grosse peinture à l'huile, bien épaisse, croûteuse. Hein, on n'est pas chez Courbet. Hein.
Il y a des détails.
Pardon ?
Il y a plein de détails.
Oui, mais au niveau technique, puisque c'est par là justement que vous commenciez.
Ils utilisaient de l'aquarelle.
Oui.
Ou alors des encres colorées.
Tout à fait. Et comment est-ce qu'on appelle cette technique qui permet finalement de, non pas d'utiliser, vous voyez, de la peinture pâteuse, tiens bien sur la toile, la croûteuse, hein, mais au contraire, quelque chose de très très léger.
La vie ?
Ouais, on peut dire ça. Il y a un mot, on utilise un nom particulier, vous ne connaissez pas, je ne sais pas, on appelle ça peinture à la détrempe. Hein.
Ah, ben bah oui.
C'est une peinture très lavée, si j'ose dire.
Hein. Il a une auréole.
Alors voilà, mais il, qui ? Parce que moi je vois plein de monde.
Ouais, hein.
Alors on a un Bouddha là.
Il y en a là-haut aussi.
Il y a plein de Bouddhas, mais alors moi je sais plus où est-ce qu'on voit les Bouddhas là.
C'est la naissance, la vie, il y a trois stades, non ?
Ah, alors.
Il y en a un en bas. Non ?
Non, on voit mal en bas.
Oui, il y a encore une.
C'est pas la naissance ?
C'est vrai. La naissance.
Moi je vois là. Un oiseau, vous voyez même sa tête et son bec, voilà son aile, hein. Un personnage dessus.
Oui.
Là, un autre personnage, mais il n'est pas seul.
Il y a quelqu'un en face.
Ouais. Et puis
il y a des animaux.
Des animaux.
Des petits lions.
Des petits lions. Et puis tout autour.
Un paysage.
Un paysage avec.
Bah, il y a des montagnes, des
rivières. Montagnes, ça c'est une montagne.
Dans la forêt.
Oui, c'est un arbre. Ça, vous ne l'avez pas remarqué la fois dernière, mais le Lohan qu'on a vu tout à l'heure, ou la rat, peut-être au japonais, vous rappelez, il était aussi sous un arbre. Et pas un petit arbre comme ça, un arbre noueux qui part dans tous les sens, qui a un côté fantastique, encore une fois. Hein. Ça fait partie des éléments un peu obligés. Hein. Et le paysage, justement, par quoi il se caractérise tout autour ?
Des cascades, des cascades.
Oui. On a l'impression d'être dans les chutes du Niagara. Hein.
Donc il y en a un dernier en haut.
Et alors en haut.
Dans les nuages.
Il y en a un, il y a un autre personnage là.
Il est mort.
Ok. Alors maintenant que vous avez à peu près décrit tout ça, caractérisez-moi un petit peu mieux tout cela.
C'est la vie, les trois stades.
Alors vous y verriez trois stades. Ben c'est pas ça. Vous verriez, vous disiez la naissance, l'âge adulte et le nirvana peut-être. Hein. Non, on a. Ben, c'est pas ça. Vous savez, la naissance, de toute façon, il faudrait qu'on ait la mère de Bouddha, hein, attachée à son arbre qui met au jour Bouddha par le côté, ça on l'a pas.
C'est peut-être la jeunesse des Lourans.
La jeunesse des Lourans. Où est-ce que vous la voyez, la jeunesse des Lourans?
Le petit jeune là en bas, avec ses lionceaux, et puis après il devient vieux, et puis après, ben, c'est jeune. Là-haut, c'est Bouddha, non?
Alors là-haut, c'est Bouddha. Vous avez raison, là, vous avez toute raison. Là-haut, c'est Bouddha. Hein. Si vous voyez là, en haut à droite, d'ailleurs, ce puissant. Il a même l'Ishnusha, vous savez, ces petites bosses qu'il y a sur le crâne. Hein. L'Ishnusha du Bouddha, on en avait parlé dans une séance précédente. Hein. Donc, vous avez Bouddha là-haut. Bien, ça, c'est bon. Ben, il est la référence. Hein. Autrement dit, celui que vous avez au centre, le héros, là, le personnage principal, c'est qui, c'est quoi?
C'est un disciple.
C'est un disciple. C'est un...
Lourdes.
Ou bien... Ou alors... Un raka.
Hein?
Bon, tout dépend où on est. Bien. Très bien. Alors, il a effectivement, vous l'avez dit, hein, une auréole. Hein?
Oui,
oui. Ouais, ouais. Vous me le caractérisez en deux mots, physiquement?
Il est vieux, déchardé.
Il est âgé, déchardé, pas super, super habillé peut-être, oui. Donc il correspond bien à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. C'est de la détrempe, c'est une peinture un peu fragile. Hein. Alors on a du mal à lire ses traits, hein. Mais on sent qu'on est là, contrairement aux deux autres précédents qui étaient plus jeunes et plus souriants, on va dire plus avenants. Hein. On est là dans ce qu'on a vu des Lorans habituels. Ouais. Hein. D'accord. Alors devant, vous avez effectivement un personnage. Bon, souvent les Lohans, qui sont eux-mêmes des disciples du Bouddha, hein, peuvent être représentés près de Bouddha, ça arrive, mais quelquefois ils ont eux-mêmes des servants, si vous voulez, des gens qui les aident. C'est le statut du personnage que vous avez devant, qui est une sorte d'assistant, si vous voulez, du Lohan ou de l'Arhat. Les animaux vous suggèrent quoi? Pour faire joli, là, on ne savait pas quoi faire en brûlant, on a des animaux. Des lions, hein. Tout petit en plus.
La puissance sur le fauve.
Alors voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a vu d'ailleurs un Lohan qui était assis sur une sorte de lion-dragon rapide.
Oui, c'est vrai. Hein. Ce n'est pas une domestication.
Pas vraiment. C'est plutôt, comment vous dire, la capacité du Lohan à vivre avec l'altérité. Et l'altérité, même quand elle est sauvage. Il ne s'agit donc pas de faire des lions, des vaches. Il s'agit de pouvoir vivre près des lions. Donc le lion est, il n'y a même pas soumis, il est, le lion est à côté du Lohan et vice-versa. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez là au premier plan une déité du panthéon indien. Curieux, ça, parce qu'on a Bouddha, vous direz Bouddha est un dieu indien, est un dieu, c'est une divinité indienne, hein, mais qui va connaître son succès largement en dehors de l'Inde quand même. Hein. Chine, Japon, Sud-Est asiatique, etc. Corée. Or là, vous avez une déité indienne. D'ailleurs, est-ce que ça pourrait vous mettre sur la voie pour savoir où a été faite cette œuvre?
Oui, c'est vrai qu'on dirait une enluminure des Indiens. Là.
Alors, c'est une pièce qui a cette taille-là à peu près. Hein.
Oui, c'est pas une enluminure.
Un mètre de haut, quoi. Est-ce que vous songez à un territoire permettrait de produire ce genre d'œuvre encore très indienne, il y a une déité indienne en bas à gauche, mais déjà très bouddhiste traditionnel, tel qu'il va se développer plus à l'est, plus au nord, plus au sud-est. Non ? Eh bien, on verra tout à l'heure. Ça vous rappelle quelque chose ?
Oui, c'est en porcelaine.
Voilà, ça vous rappelle celui que vous avez vu en porcelaine tout à l'heure. Ouais. La différence, ce serait quoi, peut-être ?
Une grosse bosse.
Oui, une grosse bosse. Ça, c'est intéressant, mais ça vous rappelle quoi, cette grosse bosse ? Vous voyez toujours beaucoup de gens avec une grosse bosse au milieu du front, comme ça ? Non ? Alors, ça peut vous rappeler quoi, ça ?
Le Bouddha.
Oui. Le Shnisha. Oui. Mais moi, ça me rappellerait d'autres choses qu'on a vues.
Oui, on a vu.
Pas forcément des bosses sur le fond, on n'en a pas vu encore. Mais des choses un peu équivalentes. Pardon ? Ce côté irréel. Hein ? Par exemple, qu'est-ce qu'on a vu d'irréel sur certains de nos Lohan ?
Les grands
sourcils, etc. Voilà. Donc on est là devant un personnage qui a des traits physiques bizarres. On va vers l'irréel, l'étrange, ou vers l'étranger, encore une fois. Hein ? qu'on disait tout à l'heure. Donc on a des caractéristiques physiques particulières. Donc c'est l'œuvre que vous rapprocheriez du Louhan en porcelaine qu'on a vu tout à l'heure. Il est un peu plus âgé peut-être. Hein.
Oui, il a la même attitude de la main gauche.
Oui, il a une attitude
de
équivalente. Oui, ouais. Ouais. C'est bon.
Mais il n'a pas les yeux baissés.
Non.
Il a des chaussures.
Oui. Tout à l'heure, il n'avait que des sandales. Waouh ! Alors, vous allez me dire, je ne vois rien. Et vous avez raison. Et j'ai anticipé vos remarques. Parce que je suis lourd à mes heures. Hein. Et je me suis dit, en méditation, je me dis, ils ne vont rien voir. Donc, je me suis dit qu'on allait couper ça en morceaux pour que vous ayez plus clair. Alors, voilà donc la partie supérieure de ce qui est quoi ? C'est quoi cet objet que vous voyez à droite complet ? C'est quoi matériellement ? Non, matériellement, c'est quoi ? C'est une peinture.
Une
peinture sur papier. Hein, voilà. Et qui donc représente en fait...
Il y a un dragon.
Oui, qui représente... 1, 2... Je vous le dis parce que de loin, c'est peut-être plus difficile. 1, 2, 3 personnages... qui sont des...
Arabes.
Des Arabes. Vous pouvez dire des Arabes ou des Louhan, si vous êtes en Chine. Bien. Tout dépend d'où vient ça. Des Rakan, si on est au Japon. Alors, celui, le personnage du haut, oui, vous le voyez là, qu'est-ce qu'il fait ?
Qu'est-ce qu'il tient ? Il a quelque chose dans la main.
Oui, il tient quelque chose dans la main.
Ouais,
il y a un dragon qui en sort. Hein. Ouais. Dragon qui, en donne ça, n'est pas forcément un être négatif. Il est au contraire favorable et protecteur. Cette chose qu'il tient dans la main, ce serait quoi ?
La lanterne d'un génie.
Ça fait penser à la lanterne d'un génie, un génie qui sort, c'est un peu ça. Il faut savoir que les Louhan ont très souvent avec eux une sorte de petite coupelle comme ça, qui sert à quoi ?
La quiété.
Voilà, c'est effectivement la coupelle de l'aumône. Et cette espèce de coupelle, qui est aussi celle dans laquelle ils peuvent demander, pas forcément de l'argent, mais des éléments à manger, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Louhan, n'est pas lui qui va faire l'agriculture, bon, faire du pain, etc. Hein. Eh bien, voilà, c'est en fait ce qu'il tient là. C'est un nom que j'ai oublié d'ailleurs. Et donc, c'est cet objet qu'il tient là, qui peut être une sorte de bol, de plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé. Et c'est ce qu'il tient là. Et alors, vous reconnaissez en romantèse les caractéristiques physiques de ce Louhan là, il est. Alors lui, il n'est pas maigre, hein. C'est plutôt l'extrême inverse. Hein. Et puis là, vous voyez des traits assez typés, etc. D'ailleurs, celui du dessous, vous voyez là, idem. Hein. Qu'est-ce qu'il tient, celui-là ?
Il a un chapelet.
Tiens, ça nous rappelle quoi ?
Le premier.
Oui, ça nous rappelle le premier. Rapide, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'il tient d'autre ?
Un chasse-mouche.
Un chasse-mouche, regardez ça. Alors, pas comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, hein, qui étaient des chasse-mouches plats. Là, c'est un chasse-mouche avec le manche et une espèce de lanière. Hein. Donc ça, c'est le deuxième Louhan. Et le troisième, vous le voyez là, assis, il y a quelqu'un devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait ?
Le quelqu'un en question, il lui offre quelque chose ?
En tout cas, le lui présente. Ouais. Lui présente là, dans une sorte de cage ou de vitrine, il y a une sorte de vase d'où sort quelque chose. Qu'est-ce que peut être cette chose qui a l'air de le passionner au plus haut point ? Alors, ça, je vais vous le dire, parce que ce n'est pas forcément évident, c'est sans doute une relique du Bouddha. Hein. Donc, j'ai les Larat, le Louhan, est en train de voir une relique du Bouddha. Alors, il sort de sa méditation. Hein. Vous voyez que lui est plutôt décharné. Vous voyez que là, sur cette peinture, vous en avez un gros bedonnant, etc. Mais en même temps, vous en avez un inverse. Hein. Ça nous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous avez là une sorte de panorama de ce que sont ces personnages. D'accord ? Alors, les derniers que je vous montrais, souvent. Vous nous rappelez d'autres que nous avons vus précédemment. Celui-là, vous rappelez quoi ?
Celui qui était assis sur le dragon.
Absolument. Ouais. Hein, vous rappelez sous le bâton terminé par un dragon. Ouais. Hein. Voilà, donc vous avez la même chose. Il est d'ailleurs toujours habillé en rouge. Hein. Toujours.
Les sourcils,
toujours assez décharnés. La barbe qui tombe, etc. Bon, on va parvenir là-dessus. Hein. On a déjà vu ça. Il n'est pas assis sur un espèce de gros nounours. Hein. Vous avez le même paysage un peu fantastique.
Ouais.
Et l'arbre.
Ouais.
L'arbre. Hein. Souvent, on a vu que les Wuhan. Tiens, ça.
Oula, une
collection de Wuhan. Ils sont combien?
15.
Et puis
Un animal,
oui. Enfin, il y a celui-là qu'on peut compter.
Ça ferait 16.
Ça ferait 16.
Des animaux.
Et puis, il y a deux animaux. Il y a...
Un en bas,
un lion. Oui, j'ai un tigre. Hein. Il a des, des ébrures. Ça vous étonne?
Non.
Ben non. Pourquoi?
Non. À cette époque-là, il y en avait.
Pas. Déjà. Mais aussi, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Alors, c'est réel. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que ça a pris un
plan?
Voilà. On a vu déjà des quantités de Wuhan avec des lions, des faux. Pas étonné. Hein. Bon, pas étonné du tout. Puis, vous voyez peut-être là un grand cou qui se termine par une espèce de grand bec. Un dragon. Hein, c'est un dragon. Il doit être caché derrière les rochers. Il sort là. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que, pour faire simple... C'est Wuhan, selon les territoires, les pays, les époques. On les a quelquefois un peu comme nos saints. Si vous voulez, tout à l'heure, vous disiez le mot saint, vous aviez raison, parce qu'on pourrait, si on veut, essayer de faire un comparatif entre l'Orient et l'Occident, dire que les Wuhan, les Arhat, sont l'équivalent des saints chez nous. Et quelquefois, on les regroupe comme ça. Hein. Donc, il y a eu, par exemple, au Japon, une sorte de regroupement de Wuhan, d'Arhat, de Rakan, ensemble. Par exemple, à un moment, on appelle ces ensembles les 16 Arhat, ou les 18. Il y avait en Chine une montagne qui s'appelait la montagne des 500 Wuhan, parce que 500 Wuhan étaient là, censés vivre dans des grottes, etc. Hein. Donc vous voyez, il y a une espèce de fédération, j'allais presque dire, hein, qui vont se reconnaître aussi au niveau des rites. Et là, vous avez une sculpture, hein, en bois, hein, qui représente justement les 16 Wuhan, qui sont, j'allais dire, un contingent qui est un peu identifié dans la religion bouddhique de ces Wuhan qui accompagnent le Bouddha. D'accord, hein. Donc le Wuhan, il faut voir qu'il peut y avoir ces dimensions de...
Ils ont des noms.
Ils ont des noms. Je ne vais pas vous citer les 500 noms des 500 Wuhan. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Et justement, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport aux jeunes que vous avez vus tout à l'heure?
Moi, j'ai
déjà pris. Oui, alors celui-là, il est vraiment différent. D'abord, il n'a pas l'air jeune.
Il a une position des mains.
Alors, il a une position des mains un peu différente. Et puis, au niveau du visage, qu'est-ce que vous auriez à dire?
Il a des sourcils.
Oui, tout à l'heure, ce qui vous avait frappé, c'est son côté très.
Oui.
J'allais dire sympathique, vous allez même dire « Oh, il est beau celui-là !» Bon, voilà. Hein. Alors, je ne sais pas s'il est beau ou pas beau, c'est pas le problème, mais là, vous avez quelqu'un qui a les sourcils, quand même, qui a l'air farouche, quoi. Hein.
Mâchoire bien carrée.
C'est ça, hein. Quelqu'un qui est quand même dans une posture plus rude, quoi. Hein. Donc, on a finalement quelque chose qui est un peu complémentaire et différent. Je n'ai pas le Covid, hein, j'ai qu'au bout d'un moment le masque quand on parle, ça. Voilà. Donc, quelqu'un qui est un peu... À l'inverse, on a le jeune, on a le vieux, on a le mignon gentil qui sourit, puis on a celui qui est plus farouche, hein, qui fait des gros yeux. Vous voyez, on a finalement deux types de Wuhan très, très différents. Ça vous rappelle quelque chose?
Il a des 30.
Hein. Il a des 30 de tout à l'heure. Alors qu'est-ce que vous retrouvez là-haut?
Le Bouddha.
Ici.
Le disciple,
c'est-à-dire le...
Wuhan
ou le Arhat, hein, qui est sous un
paysage fantastique.
Voilà, avec un
serviteur,
des servants, et là.
Et là, la déesse.
Une déité indienne. Hein, sur un éléphant cette fois. Hein. Alors je passe sur les autres éléments. Hein. Ok?
Ouais.
D'accord? Ah ben, je vois que vous commencez à vous y faire, et là.
C'est déjà.
Voilà.
Donc la plaque de jade.
Une autre plaque de jade recto verso. Avec à chaque fois un Wuhan. Faut prononcer. Hein. Si on ne prononce pas, on n'apprend pas. Un Wuhan, à chaque fois. Voilà.
Un vieux.
Oui, ils ne sont pas tout jeunes. Celui-là, regardez, il a des tas de bosses partout. Hein. C'est pas étonnant, c'est des gens un peu spéciaux, un peu particuliers, qui ne sont pas monsieur tout le monde, bah, ils ont des traits physiques spéciaux.
Le petit de droite, il a un petit chapeau.
Oui, il a une espèce de petit. Alors je ne sais pas si c'est pas, voilà, une espèce de touffe de cheveux.
Oui, c'est pour être ses cheveux.
Voilà.
Sur un scie, pareil, sur un rocher.
Oui, voilà, c'est sur un rocher.
Le même rocher que tout à l'heure.
Oui, regardez celui-là, il a les mêmes sourcils qui descendent.
Ah oui.
Vous voyez, hein. Voilà. Bon, vous êtes commencé à être habitué à tout ça. Alors là, c'est presque la fin. Hein. Je vous montre une autre de ses peintures. On va, comme d'habitude, regarder les trois. 1, 2, 3, Laura, qui s'y trouve. Voilà celui du haut. Il représente quoi?
Il est assis, tranquille.
Oui.
Il a son auréole.
Il a son auréole.
Il a des boucles d'oreilles.
Oui.
C'est un animal?
Un singe. Qui lui offre une pivoine. C'est sympa. Ce lien avec la population sauvage dont je vous parlais.
Ah ben, le tigre.
Voilà. Voilà un loha avec son tigre.
Son serviteur.
Son serviteur.
Et son serviteur. Qu'est-ce qu'il fait le serviteur?
Qu'est-ce qu'il fait le serviteur? Il gratouille le tigre, non?
Oui, mais quoi? Les oreilles du tigre. Comment vous avez un tigre? Il faut s'en occuper. C'est comme si vous avez un chien. Vous avez un chien, vous occupez de votre chien. Quand vous avez un tigre, vous occupez de votre tigre. Ben là, le desservant du Louhan fait nettoyer les oreilles du tigre par son serviteur. Ah. Ok, il nettoie les oreilles. Le tigre a l'air assez content, d'ailleurs. Hein.
Oh oui.
Sympa, ce tigre.
Par contre, le Louhan, il a...
Ah, ben il est farouche. Il est farouche.
Il a des oreilles. Paul.
Et puis là... On va... Bon, ben, vous voyez quand même un Mohan, voilà sa tête, hein. Très décharné, voilà sa main. Hein. Qu'est-ce qu'il tient?
Un chasse rouge.
Hein. Voyez même sa tête qui se reflète dans les eaux. Et là, un petit garçon avec un petit chien qui est en train de laver. De laver. Non.
Un singe?
Non. Un objet circulaire.
Alors, le bol à offrande.
Exactement, le bol à offrande qui a toujours le Louhan. Parce que Louhan a toujours un bol pour recueillir les offrandes. Ben, ça se lave de temps en temps. Louhan a beau être un Louhan, il peut être un peu propre, surtout quand il a des servants pour l'aider. Hein. D'ailleurs, on a un autre derrière.
Il en a même un autre derrière.
Absolument. Voilà. Alors, on va récapituler ça en 2 minutes avant de terminer. Le but étant, encore une fois, qu'aujourd'hui, vous ayez ces figures en tête. Hein. Parce que des Louhan nous enverraient partout. Hein. C'est vraiment une figure fondamentale. C'est comme si un Chinois venait en France et visitait les églises et ne comprenait rien au statut de saint qu'il y a dans les églises. Des saints, il y en a des tonnes. Et si on n'a pas ça en tête, on ne comprend rien à l'évolution de la religion entre l'Antiquité et aujourd'hui. Bon. Eh bien, si vous allez en Chine, au Japon, en Corée, en Inde, etc., au Tibet, et que vous ne savez pas ce que c'est qu'un Louhan, vous n'allez tout simplement rien comprendre ce que vous allez voir. Donc c'est important d'avoir les Louhan en tête, les Arabes, les Rakam, parce que c'est une des bases de la culture extra-orientale, tout simplement, et bouddhique en l'occurrence. Alors, je vous ai remis avec cette fois des légendes, toutes les sculptures dans l'ordre, pour que, on mette bien tout ça en place dans notre cerveau. Ce que vous avez là sont des œuvres chinoises qui vont vivre en sens, vous l'aviez bien vu. C'est deux des Louhan essentiels de Bouddha. Hein. Bouddha était, notamment avait auprès de lui Ananda, qui est celui de gauche, le très sympathique, vous avez vu tout à l'heure, ouais. Qui en plus avait une mémoire extraordinaire, et c'est lui qui notamment avait en tête tous les éléments de la loi bouddhique, c'est celle qui est représentée par la roue, hein, que vous savez. Hein. Celui de droite, Kashyapa, est lui un personnage qui a présidé notamment à la crémation de Bouddha, au partage des reliques, etc. Vous savez ce qu'on a vu tout à l'heure sur les reliefs du Gandhara, hein. Donc on voit là des espèces de personnalités complémentaires qui sont parmi, j'allais dire, les Louhan qui forment le premier cercle de Bouddha. Hein. On est là au 7e siècle, hein, l'époque de la dynastie des Sui. Ça, ces trois petits moines, c'est coréen. Ça date du 15e siècle. Hein. Et donc trois moines, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Alors là, on est au Tibet. Vous vous rappelez, c'est des trempes. On a vu l'une et l'autre. Hein. Je vous disais, est-ce que ça vous dit rien, un lieu comme ça, qui est encore très indien, tout en étant déjà très bouddhique, au sens... Ben, le Tibet est entre les deux. Ce qui fait que le Tibet est très marqué par les religions de l'Inde, mais aussi super marqué par le bouddhisme, évidemment. Donc vous avez là des œuvres qui, naturellement, entre la Chine et l'Inde, sont très bouddhico-indiennes, pourrait-on dire. Et voilà, vous avez là deux arates. Je tiens à dire qu'on ne met pas de S au mot arate, hein, parce que c'est un nom qui n'est pas français. Quoi, voilà. Donc j'ai regardé partout. Au départ, moi j'en étais. Puis j'ai remarqué dans les publications, il n'y en avait pas. Voilà. Donc ce n'est pas une faute d'orthographe. Il n'y a donc pas de S. Hein.
La précédente, il n'y avait pas marqué 20e siècle.
Oui.
Ah, je me suis trompé peut-être.
Hein. Parce que ça faisait très long.
Oui.
Non, mais c'est normal. La dynastie de Choson, c'est une dynastie qui dure très longtemps.
Non.
Donc ça dure de la fin du 14e au 20e siècle. Alors après, à l'intérieur, il se passe des choses. Quoi, hein. Mais c'est comme, la période d'Edo au Japon, elle est longue aussi. Hein. Donc, ou la période Kanlong aussi. Enfin voilà, il y a différentes périodes. Ben comme nous, si vous voulez, on aurait l'époque moderne, hein, c'est 16e à 19e siècle. Ouais. Voilà, c'est un peu l'équivalent, vous voyez. Alors toujours pour terminer cette revue, là on est en Chine, au milieu du 18e, c'est les plaques de jade. Hein. Ouais. Voilà, vous avez quatre arates. Voilà, on les a vus tout à l'heure, mais à chaque fois, vous avez le recto et le verso de chaque plaque. Hein. Le pourtour est en tissu, on n'a pas dit tout à l'heure. Hein. Là, on a vu les deux arates de droite, je ne vais pas passer celui de gauche parce que ça devenait un peu redondant. Hein. Une très belle série d'arates en porcelaine, sans doute commandées par l'empereur d'ailleurs. Hein. Et là, on est à la fin du 18e siècle. Alors évidemment, puisqu'on est dans une commande impériale, c'est assez chic. Hein. C'est beau, hein. C'est des grandes pièces. Hein. C'est des prouesses techniques. Hein. On n'a pas voulu faire ça. Hein. Voilà. Là, vous avez deux grands rouleaux hein, peints sur papier. Donc, vous avez vu tout à l'heure, là, on est au Japon. Hein. Alors, encore une fois, j'ai mis arate parce que c'est le mot générique. Hein. Arate, c'est vraiment le mot générique qu'on peut utiliser aussi en Chine, au Japon, etc. Même si, je vous l'ai dit, hein, l'Ohan ou l'Arakan sont les noms spécifiques dans les pays concernés. Hein. Et puis, il doit y avoir encore une ou deux choses. Ah ben oui, là, vous vous rappelez hein, du premier rouleau et là, du deuxième, on les a vus en détail tout à l'heure. Je vous ai mis les noms, vous les retrouverez sur le diaporama. Mais parce que tous ces Wuhan, et surtout les 16 Wuhan, les 18 des premiers cercles, si j'ose dire, ont des noms et sont tout à fait identifiés, comme nos saints à nous. Hein. Ouais. C'est un peu comme nous, vous savez, Saint-Antoine, Sainte-Catherine, tout ça, vous les reconnaissez. Hein. Quand vous allez dans le fin fond du cimetière et vous voyez soin Trucmuche, vous ouvrez les yeux ronds, ben, c'est un peu pareil en Extrême-Orient. Là, on est devant des arates de Corée. Donc c'est pas le Japon, c'est la Corée, on n'est pas très très loin. Et vous avez bien vu que les deux peintures allaient ensemble. Voilà. Et là, c'est un relief, sculpture japonaise, qui par exemple, on a vu les 16 arates, je vous dis quelquefois, il y avait des conjonctions d'arates. On en a là exemple. Pardon ?
Les bois, mais c'est pas d'un seul bloc ?
Non, ces éléments-là sont rapportés. Ah, oui. Si vous voulez, le fond, oui, il fait d'un seul bloc, mais tous les éléments, y compris le lotus, il y avait même là une petite relique du Bouddha. Hein.
Oui,
les petites figures sont rapportées, tout comme les petits cartels avec leur nom, etc. C'est joli, ça. Hein. Mm. Par parenthèse, je reviens une seconde en arrière. Quand on avait regardé dans la séance 2 les reliefs du Gandhara, je vous avais montré ce relief-là, qui est dans des moines, justement. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait différents niveaux dans les disciples du Bouddha. Il y a les moines, après il y a les arhats, etc., ou les lorans et les autres. Les moines, ben, on en avait déjà vu, c'est les disciples, mais qui sont du niveau, le plus élémentaire. Hein. Et je vous avais déjà montré cela, ou ceci, qui représente également des moines. Hein. C'était simplement pour faire un petit retour sur la séance de la dernière fois. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous donne toujours une petite photographie complémentaire. Je vais vous montrer ce petit lorin-là, parce que, ou arate, hein, voilà. C'est tout petit, hein, c'est une sculpture qui fait à peine 10 cm de haut. Je trouve ça très beau. Et je trouve qu'à notre époque, ce genre d'œuvre un peu tranquille, et qui, invite à la méditation, avec une certaine sagesse, et ben, c'est pas mal. Voilà. Pour ça, je voulais commencer aujourd'hui par cette thématique-là. Voilà. Merci. Ben, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. C'est l'heure. Hein. Et puis, peut-être que certains d'entre vous seront là demain pour la première séance sur l'Égypte, ou après-demain pour la quatrième sur les arts d'Extrême-Orient. Voilà. On va rouvrir. Bon, donc demain, c'est...